Bienvenue à chacun, ça fait plaisir que nous pouvons accueillir plus de monde, plus de touristes, de visiteurs pendant cette période d'été, même si d'autres sont partis et d'autres partent encore en vacances. J'aimerais prier avec vous avant d'ouvrir la Bible. Père Céleste, ce moment est court, mais nous croyons qu'il peut avoir une portée éternelle. Si nous écoutons ta parole, si nous prenons à cœur ce que tu as dit, le salut de notre âme dépend de notre fidélité à l'Évangile et nous voulons saisir ce moment. Et je te prie qu'au-delà de mes paroles et de ma voix, nous puissions tous ensemble écouter tes paroles et ta voix et savoir que tu t'adresses à nous de manière particulière pour notre encouragement, pour nous reprendre, nous corriger, pour nous régénérer peut-être, mais aussi pour nous garder en toi. Amen. La question de ce matin est, Dieu est-il capable d'utiliser des moyens faibles, des gens qui ne sont pas impressionnants ou particulièrement doués? C'est normal que Dieu puisse utiliser des gens surdoués. C'est des gens qui ont des capacités extraordinaires, des gens brillants. On a été peut-être frappé par les dons de quelques-uns que Dieu a utilisés dans notre vie. Mais ces dons viennent de Dieu, mais on comprend bien que Dieu peut les utiliser. Mais si Dieu ne sait pas utiliser des moyens faibles, nous sommes en difficulté. Parce que ça veut dire que la plupart d'entre nous, on est au chômage. On est juste là en train d'attendre que Jésus revienne, nous dise que c'est la fin de notre vie. Et entre-temps, nous ne faisons rien. Parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous n'avons pas beaucoup d'influence ou de pouvoir. Nous sommes marqués plutôt par la faiblesse, la fragilité. Et nous ne sommes pas impressionnants. Est-ce que Dieu serait capable de nous utiliser? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu renonce à utiliser? Nous allons le voir ce matin. Commençons en 2 Corinthiens, chapitre 4. La semaine passée, on a écouté les 6 premiers versets. Mais j'attire votre attention à 2 Corinthiens 4, verset 7, qui dit ceci. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Trésor de l'Évangile, présence de Dieu, nous la portons dans des vases de terre, des vases d'argile, rien de plus simple, rien de plus fragile. Et à travers ce que nous sommes, dans notre fragilité, la puissance extraordinaire qui a lieu, qui est à l'œuvre, on dit, ça doit venir de Dieu. Ça ne peut pas venir de l'humain, ça ne peut pas venir de cet homme ou de cette femme qui agit pour le Seigneur. Ça, c'est une déclaration de la parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu, dans la Bible, il n'y a pas que des déclarations. Il y a aussi des histoires. Et parfois, ces histoires, des histoires vraies, nous aident à saisir ce qui est de la réalité de Dieu à travers des personnages. Nous allons écouter ensemble une histoire qui manifeste cette même vérité, que la puissance extraordinaire est à l'œuvre, que le Dieu vivant n'a pas besoin de grands moyens pour faire de grandes choses. Et j'espère que cela sera un encouragement pour nous aujourd'hui, parce que ça nous montre à quel Dieu nous avons affaire, en quel Dieu nous avons mis notre confiance, quel Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui. C'est une histoire que les enfants connaissent, et donc les enfants sont là parmi nous aujourd'hui en tant qu'experts. Mais nous, les adultes, nous ne connaissons pas tous cette histoire. C'est une histoire de l'Ancien Testament en 2 Rois, chapitre 5. Prenons notre machine à remonter dans le temps, si vous en avez, et remontons dans le temps au 1er siècle. On débarque au 1er siècle. Et nous sommes là à l'époque de Jésus, où Jésus était sur terre. Mais nous allons reprendre notre machine et nous allons remonter encore plus loin, avant Jésus. et vous allez remonter jusqu'à l'époque des rois d'Israël. Vous sortez de votre machine à remonter de temps et vous avez aussi voyagé jusqu'en Israël. Vous trouvez à l'époque des rois d'Israël. Si vous êtes remonté jusqu'à David, vous êtes allé trop loin. Il faut revenir un peu. On se situe à 800 ans environ avant Jésus-Christ. On va entendre l'histoire en 2 Rois, chapitre 5. Je vais lire tout le chapitre, mais je vais le lire en deux parties. D'abord, la première partie, naturellement, on commence au début du chapitre. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange, et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et il guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Il tourna le dos et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Il y a 4 personnages dans l'histoire auxquels nous allons nous intéresser. Le premier personnage est une fille qui est fidèle. Un très grand contraste est établi entre la fille, d'une part, et Naaman, d'autre part, dès les premiers mots de ce chapitre. Il était grand, elle était petite. Il est puissant, il a gagné des guerres. Elle n'est même pas adulte. Ce n'est pas un soldat dans l'armée, c'est une petite fille, étrangère, captive. Elle travaille comme servante. On a du mal à y imaginer quelqu'un de plus impuissant que cette petite fille, n'est-ce pas ? Cette fille n'a pas été la seule à être capturée. Elle était probablement dans un groupe qui avait été emporté comme des prisonniers de guerre lors d'une attaque sur Israël, sur Samarie, la partie au nord d'Israël. Mais son maître est puissant. C'est un chef, il est vaillant, il est courageux, il est victorieux. Dieu l'a utilisé pour une victoire militaire contre son propre peuple. Et pourtant, lui aussi a des limites. Il a la lèpre. C'est une maladie de la peau. Chaque fois que la lèpre est mentionnée dans la Bible, ce n'est pas nécessairement la lèpre comme nous la connaissons aujourd'hui. Mais cette maladie de la peau allait de pire en pire et il ne pouvait rien y faire. Il devenait désespéré. Aucun traitement médical ou spirituelle n'avait pu l'aider jusque-là. Et quand on est désespéré, on prend parfois des mauvaises décisions. Mais là, il va trouver le secours, parce que la fille, la petite fille, va parler au verset 3. « Si seulement mon Seigneur... » On pense qu'elle va dire « Si seulement mon Seigneur me laissait partir dans mon pays, me laissait rentrer chez moi. » Mais elle dit « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Elle parle avec beaucoup de foi, cette petite fille mais grande foi, parce que Élisée n'a pas guéri de lépreux jusque-là. Dieu a fait quelques miracles à travers Élisée, et elle croit que Dieu est puissant et bon. Et donc, elle croit tout simplement que Dieu va guérir Naaman, son maître. La foi des enfants est bien moins compliquée que la foi des adultes, n'est-ce pas ? Elle est tellement convaincue que sa solution va être prise au sérieux par le chef de l'armée. Il est prêt à en parler au roi et même à aller jusqu'en Israël. Il n'a rien à perdre, et donc il aura tout à gagner. Sans cette fille, le reste de l'histoire ne se produit pas. Alors ça nous encourage. Y a-t-il quelqu'un de notre entourage qui a besoin du Seigneur ? Est-ce que nous osons parler de lui ? C'est tellement encourageant que Dieu peut employer, se servir de quelqu'un qui est cette petite fille, pour faire quelque chose de formidable. Je pense à un exemple moderne, c'est William Lane Craig, qui est un grand apologète aux États-Unis. Cet homme américain est brillant, il sait comprendre la physique et la philosophie, il a un cerveau hors norme, il comprend des choses que je ne comprends pas. Et Dieu l'a utilisé pour parler de lui et pour défendre la foi chrétienne dans le monde entier, mais particulièrement en anglais aux États-Unis. Cet homme-là a été convaincu de devenir chrétien à l'école. Quand il était gamin, il se trouvait à côté d'une fille chrétienne. Lui n'était pas chrétien. Et il remarquait que cette fille chrétienne souriait tout le temps. Il lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu es si heureuse? Pourquoi tu es contente comme ça? Et elle a osé parler de Jésus-Christ, son sauveur. Voyez-vous, quelqu'un de simple, en toute simplicité, en toute honnêteté, peut avoir un témoignage qui gagne. Ce serait dommage de rester muet, n'est-ce pas ? Sachant que nous connaissons la réponse et nous voulons agir à l'exemple de cette fille. Bien entendu, nous croyons à la médecine. Les protestants en Belgique ont signé une déclaration comme quoi nous ne croyons pas que la prière peut remplacer un traitement médical. Mais heureusement, nous savons aussi que Dieu agit bien au-delà de ce que la médecine peut faire ou même comprendre. Quelquefois, j'ai entendu quelqu'un dire « Les médecins ne comprennent pas !» Mais nous savons que Dieu a été à l'œuvre. Alors d'abord, une petite fille qui était fidèle. Ensuite, un Seigneur qui sauve. Je ne parle pas ici d'Élisée. On parlera de Naaman plus tard, mais notre attention est fixée sur le Dieu qui agit, le Dieu qu'Élisée sert. Par nature, dans ce monde, les grands parlent aux grands, n'est-ce pas ? Et donc le commandant de l'armée va parler au roi de Syrie, et celui-ci va envoyer un courrier vers le roi d'Israël au verset 6. C'est normal, il n'a pas l'adresse d'Élie, il ne sait pas où trouver le prophète, et donc il envoie son courrier au palais. Sauf que le roi de Samarie, il ne sait pas comment guérir un lépreux. Dieu seul peut décider ce genre de choses. Et au verset 7, juste en passant, je signale qu'il y a quelque chose pour nous, pour nos questions éthiques, si nous réfléchissons à cela, lorsqu'il dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» C'est Dieu qui décide la fin de la vie. Mais je ferme la parenthèse. Le roi a pris de panique. Il va même penser que le roi de Syrie essaye de trouver une raison pour un conflit. On sait bien que dans une situation internationale tendue, il suffit parfois de peu de choses. Un ambassadeur renvoyé, une demande refusée, et puis c'est la guerre. Alors il a peur. au verset 7. Mais Élisée est la personne qu'il faut, et Élisée ne va pas au palais, mais il ne va pas parler à Naaman, mais il est au courant. Et je pense que par souci de pureté, Élisée ne veut pas être dans la présence du lépreux, mais il va néanmoins agir très vite. Verset 8, « Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Il fait là écho à ce que la fille, la petite fille avait dit. Vous vous souvenez ? Il y a un prophète en Israël. Ce n'est pas seulement un prophète, parce qu'il y avait d'autres prophètes qui adoraient d'autres dieux, qui proclamaient d'autres divinités. Mais lui était prophète de l'Éternel, le Dieu vivant qui est puissant pour agir, qui peut prendre soin de ceux qui prient à ce Dieu, le Dieu qui est capable de sauver. Alors, Naaman va se rendre là-bas, pas aux Champs-Élysées, mais à la maison d'Élysée. Et là, il va y avoir une situation un peu comique. Vous imaginez ça aujourd'hui ? La rue devant la maison d'Élysée est bloquée parce qu'il y a la limousine ou la Mercedes avec le chef de l'armée dedans. Derrière, il y a les SUV, n'est-ce pas, avec les garde-corps. Il y a la police militaire avec les motards qui sont là, qui sont en train de tout bloquer devant la maison. Et le majordome sort de la maison d'Élysée, va toquer à la fenêtre de la voiture et dit « Ne descendez pas de la voiture, ce que vous devez faire, c'est faire demi-tour et aller vous baigner dans le canal de Bruxelles. » Excusez-moi, vous ne savez pas qui je suis ? Vous n'avez pas vu tout ça que j'ai avec moi ? Le canal de Bruxelles ? Mais l'eau n'est même pas saine. C'est une blague. Alors sérieusement, la façon dont la chose se déroule, la réponse d'Élisée va nous montrer plusieurs choses, en fait. D'abord, ce n'est pas à cause de la grandeur de Naaman que Dieu va le guérir. Dieu ne tourne pas son attention principalement vers les grands de ce monde, mais vers la veuve et l'orphelin, n'est-ce pas ? Ensuite, ce n'est pas par la puissance d'Élisée que Dieu va guérir. J'aime bien la façon dont Élisée traite Naaman, parce qu'en fait, il prend de la distance. Il dit, va là-bas, et c'est là-bas que Dieu va te guérir. Plutôt que d'attirer l'attention vers lui et dire, voilà, c'est le moment, je vais te guérir. Vous voyez ? Et donc, la mise en scène que Naaman voudrait au verset 11 ne se produit pas. Ce qu'il voudrait, c'est qu'il vienne dehors et dise, ah, voilà, quelqu'un d'important, eh bien, je fais appel au nom de l'Éternel, et puis je vais faire un mouvement de la main sur l'endroit malade, et puis, voilà, tu seras guéri. Mais il n'y a pas de spectacle. Et du coup, tout est humiliant pour le chef. Il doit s'en aller, trouver le cours d'eau, enlever sa tenue royale ou militaire, et aller dans l'eau, puis ressortir de l'eau, puis retourner dans l'eau, ressortir de l'eau, puis retourner dans l'eau. C'est vraiment super gênant, c'est très humiliant ce que Dieu lui a fait subir. Mais on comprend aussi que par la réponse de Naaman, ce ne sont pas les qualités de la rivière qui vont guérir Naaman. Ce n'est pas un de ces cours d'eau naturels qui a des propriétés qui pourraient lui faire du bien. Il y a de belles rivières ailleurs. Ce n'est pas un bain de santé, mais c'est un pas de foi. Et Dieu est en train d'instruire Naaman qu'il doit faire ce pas de foi. Fais ce qu'il te demande. Verset 13, tu seras pur. Crois à la promesse de Dieu et va te laver là où il te demande. Parfois, quelqu'un refuse de suivre Jésus parce que c'est trop simple. On dit, ah bon ? Je dois croire en quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, puis le problème entre moi et Dieu serait réglé. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Repentez-vous et soyez baptisés. C'est trop simple. Ben, nous ne devons pas compliquer les choses. Nous devons faire ce qu'il nous demande. Tout simplement. Parce que celui qui sauve est aussi le Seigneur. Et donc lorsque Dieu dit ce qu'il faut faire, ce n'est pas à nous de négocier ou de décider qu'il devrait faire autrement. Alors vous voyez le dessin, il descend dans l'eau, il est lépreux. Mais la septième fois, quand il ressort de l'eau, il est pur. Naaman devint pur. Et le verset 14 nous dit, en fait, sa chair devint comme celle d'un jeune enfant. Le grand Naaman est devenu comme un petit enfant, comme la jeune fille. Un petit enfant dans le royaume de Dieu, par la foi en la parole de Dieu. Ça nous montre, n'est-ce pas, qu'il faut se rendre compte de qui est vraiment puissant dans notre vie. Et Naaman s'est rendu compte que le plus puissant et le plus grand roi, plus puissant que n'importe quel prophète, est le Dieu d'Israël. Maintenant, lisons la deuxième moitié de qu'est-ce qui se passe après cette guérison miraculeuse. On reprend la lecture au verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi ton serviteur. » Qu'on m'en donne à l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Élisée lui dit, pars dans la paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Géasi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre son char pour aller à sa rencontre et demanda, est-ce que tout va bien ? Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire deux jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté des prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. » Naaman dit, « Accepte de prendre 60 kilos. » Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs, lui donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi, par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui, puis il renvoya ses hommes qui partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit « Ton serviteur n'est parti nulle part ?» Mais Élisée lui dit « Mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment ?» de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Ici, l'accent tombe sur 2 personnages, sur Naaman d'abord et puis sur Géasi. Un commandant qui croit. C'est comme ça que je pense qu'on peut décrire Naaman. En fait, il pourrait partir, il est guéri, il a reçu ce qu'il voulait. Il pourrait retourner en Syrie en bonne santé, mais il cherche d'abord à retrouver Élisée pour le remercier. Et il va lui faire 3 demandes. Vous voyez, Naaman est devenu humble. Sa première demande est qu'il puisse donner quelque chose à Élisée. Il est devenu croyant actuellement et il dit « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. » Quelle belle déclaration de foi. « Le Dieu d'Israël, dit-il, est le vrai Dieu. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Révélé depuis la création, le Dieu qui fait du bien, le Dieu qui siège dans le ciel, mais qui agit sur la terre. Nous devons donner la gloire à Dieu. » Pas à l'instrument qu'il utilise, pas au pasteur ou à l'évangéliste ou à l'auteur que Dieu a utilisé peut-être pour attirer votre attention vers Dieu, mais à Dieu, Dieu qui sauve. Et cet homme est maintenant prêt à tout donner. Il veut donner à Élisée un cadeau, mais Élisée ne veut rien. Les questions de l'argent et du ministère sont compliquées, n'est-ce pas? Mais Élisée ne veut pas s'enrichir en faisant des miracles pour des hommes. Et donc même lorsque Élisée insiste, Naaman insiste, Élisée refuse. Verset 16. Mais la deuxième requête, c'est de pouvoir emporter des sacs de terre. Et ça nous semble un peu farfelu, n'est-ce pas? Il se prend pour quoi? C'est bricot, là, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne devons pas faire ça. Nos frères et notre sœur qui sont allés en Israël n'ont pas ramené des sacs de terre, j'imagine, pour mettre dans leur jardin. Mais en fait, aujourd'hui, nous avons tellement l'habitude de pouvoir prier n'importe où et d'adorer Dieu n'importe où. Nous savons que nous ne devons pas aller dans un endroit précis pour louer Dieu, pour adorer Dieu, en esprit et en vérité. Nous pouvons être dans notre cuisine ou notre chambre ou à un arrêt de bus, et nous pouvons adorer Dieu, discrètement, je pense, mais nous pouvons le faire dans notre cœur, et Dieu nous écoute. Mais à l'époque, c'était différent. À l'époque, en fait, il y avait des endroits où on pouvait aller pour rencontrer Dieu, pour adorer un Dieu. Et le paradoxe, c'est qu'en Samarie, en fait, ils adoraient d'autres divinités. Ils n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Ils n'allaient pas jusqu'au temple de Jérusalem où ils devaient adorer Dieu. Il faisait un peu n'importe quoi dans le pays. Mais Naaman a compris que l'adoration doit être exclusive. Et c'est en fait ça le geste qu'il a avec ce sac de terre. Il n'est pas devenu polythéiste, il n'y a pas de syncrétisme, il ne va pas mélanger ses anciennes croyances dans d'autres divinités avec sa nouvelle croyance en Dieu. Il dit c'est le Dieu d'Israël ou rien, c'est que lui. Et Dieu est le seul à qui il offrira des sacrifices. Verset 17. Alors c'est une belle image. On l'imagine dans son jardin, n'est-ce pas, Naaman, de retour chez lui. Fond du jardin, grand jardin, j'imagine, un général comme ça. Mais là, il aura déposé les sacs de terre et il aura son petit endroit où il pourra se tourner vers Jérusalem et prier le Dieu qui l'a guéri, le Dieu qu'il a rencontré en Israël, dans la rivière. Et c'est ce qu'il fera pour le reste de sa vie. Jésus, en quelque sorte, est représenté par ces sacs de terre. Parce que Jésus est celui qui nous donne accès à Dieu. C'est lui le tabernacle, le lieu de rencontre avec Dieu. Dieu parmi nous. Et c'est en Jésus que nous avons accès à Dieu, au Dieu vivant. La troisième requête de Naaman, c'est que Dieu le pardonne. Le Syrien ne veut plus être idolâtre. Mais il sait que, dans sa fonction, il accompagne un roi idolâtre. Accompagner ce roi syrien, quand il adore Rimmon, est une situation délicate. Parce que Naaman ne participe plus avec son cœur dans cette idolâtrie. Néanmoins, il sera présent, il sera là, dans le temple de ce Dieu étranger. Que faire? Que Dieu le pardonne. Et Élisée lui assure de la paix. Alors soyons clairs, nous ne pouvons pas servir Jésus-Christ et un autre maître. Jésus a dit, nous ne pouvons pas aimer Dieu et l'argent, par exemple. Mais nous ne pouvons pas non plus nous séparer de tout ce qui représente la religion des autres. Parfois, nous travaillons pour un patron qui adore l'argent, par exemple. Mais nous ne pouvons pas nous séparer de lui en disant « Moi, je ne viens pas au bureau parce que toi, tu adores l'argent. » Parfois, nous sommes en contact avec des gens qui sont idolâtres. Alors, si je peux l'éviter, je veux ne pas être là où des gens prient ou chantent à un autre Dieu. Mais Dieu sait bien ce qui se passe dans notre cœur. Et ça, c'est le plus important. La dernière scène de l'histoire concerne Géasi. Et lui, malheureusement, c'est un serviteur qui se sert lui-même. C'est triste, mais il faut le reconnaître. Beaucoup de gens qui sont associés au ministère de Dieu ne sont pas des hommes de Dieu. N'est-ce pas frappant que la jeune fille sert Naaman. Naaman se dit serviteur d'Élisée. Élisée sert l'Éternel. Mais Géasi se sert lui-même. Il a le rôle de serviteur de l'Éternel. Il a le rôle de serviteur d'Élisée. Il travaille pour le Seigneur dans ce sens, mais il est désobéissant. Et tandis que Dieu utilise la petite fille, et il va utiliser aussi la lèpre de Naaman, et il va utiliser le cours d'eau d'Israël, des moyens faibles, il ne va pas bénir Géasi. Parce que c'est un hypocrite. Il est fourbe. Oui, Dieu peut utiliser des gens comme ça, mais il ne va pas les bénir. Géasi a toutes sortes de vices cachés qui vont faire surface à la fin de ce chapitre. D'abord, le racisme. Voilà la façon dont il parle. « Ah, mon maître a été un peu trop gentil envers cet étranger. » Sous-entendu, il ne mérite pas tant de bonté. Ensuite, la soif de posséder. « Je vais obtenir quelque chose de sa part, » dit-il. Verset 20. « Pas pour Élisée ou pour son peuple, mais pour lui-même. » Et puis le mensonge. « Mon maître m'envoie. » Verset 22, on voit que c'est un affabulateur. « Mon maître m'envoie te dire. » Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être qu'il raisonnait ainsi. « Oh, cet homme est riche. Ce ne sera pas une grande perte pour lui. De toute façon, il allait donner quelque chose, n'est-ce pas? Il avait amené tout ça de la Syrie jusqu'en Israël et ce n'était pas pour le ramener chez lui. Et en plus, il est du côté de l'envahisseur, donc je suis en train de récupérer des choses qui appartiennent à notre peuple. Vous voyez comment on peut parfois raisonner des choses pour justifier notre péché. Mais Élisée voit juste. Et Élisée dit, c'est pas le moment pour prendre de l'argent. C'est pas le moment pour t'enrichir sur le dos des étrangers. Cette fortune qui permettra à Géasi d'acheter des vignes, des animaux et d'avoir des serviteurs, c'est pas le moment, Géasi. C'est pas la chose à faire, c'est pas ce qui doit motiver quelqu'un qui sert Dieu. Quand Géasi revient, vous voyez au verset 25, il prend ces choses chez lui, verset 24, il les dépose chez lui, il renvoie à les hommes qui partirent, et il pense que tout est caché, ni vu, ni connu. Et il entre, verset 25, à Élisée, et il dit, non, non, je suis allé nulle part. Un mensonge, parfois, entraîne un autre mensonge, entraîne un plus grand mensonge, on essaie de couvrir notre faute, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est tromper Dieu. Dieu sait ce qui s'est passé. C'est une chose horrible de mentir au Saint-Esprit, de croire que personne ne sait, parce qu'aucun homme nous a vus. Mais le Seigneur sait toute chose. Géasi finira par être lépreux pour toujours. Il a gagné 2 sacs d'argent. Mais à quel prix? Il a menti à Élisée, il a pu être une occasion de chute pour le nouveau converti. Naaman, il sera déshonoré, il perdra sa santé, sa descendance est affectée, il a perdu la paix. Une double vie, belle en apparence, mais avec tous ses désirs égoïstes, et ça mène à la ruine. On a parlé du fait que certains d'entre nous ressemblent à cette petite fille qui a osé témoigner de ce grand Dieu. D'autres ressemblent à Naaman qui doit trouver la purification en Dieu, le pardon en Dieu, la guérison en Dieu. Et puis qui vont être des témoins fidèles en disant « Je crois au seul Dieu vivant et vrai ». Mais c'est possible aussi que quelqu'un ressemble à Géasi. On voudrait dire à Géasi, s'il était là aujourd'hui, « Supplie au Seigneur qu'il ait pitié de ton âme. » Mais Dieu est capable de pardonner Géasi, menteur, égoïste, avec ta soif de posséder. Dieu peut te pardonner. Mais pour Géasi, c'est trop tard. Géasi n'est plus en vie aujourd'hui. C'est trop tard pour lui, mais pas pour nous. Prions. Nous voulons te demander, Seigneur, que nous puissions être en toute sincérité face à face avec toi pour reconnaître notre état. Peut-être que notre cœur est lépreux, il est insensible. Nous avons besoin d'être secourus. Peut-être que nous avons des désirs égoïstes qui prennent le dessus sur nous. Nous sommes comme Géasi, nous avons besoin d'être pardonnés. Peut-être au contraire, nous avons besoin de courage pour parler de toi, comme cette petite fille. Peut-être que, comme Élisée, nous serons utilisés par toi, mais en étant humbles, en n'attirant pas l'attention sur nous, en ne recherchant pas une récompense terrestre, mais en cherchant simplement à ce que tu sois connu. Seigneur, c'est toi qui es à l'œuvre, et nous sommes simplement heureux de pouvoir nous approcher de toi. S'il te plaît, garde-nous proches de toi, dans la fidélité. Au nom de Jésus. Amen.